Matthieu 21, au verset 33. Jésus-Christ est Seigneur, même à travers ce qui se passe sur la terre actuellement. Juste avant d'aller lire les Écritures, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce qui est arrivé en Haïti cette semaine? Lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Lorsque l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. Et des cataclysmes semblables, il va y en arriver encore. Jésus est Seigneur. Et c'est pourquoi nous attendons une terre nouvelle où nous n'aurons pas à vivre ces angoisses incroyables. Cette semaine, je parlais avec Wilkie Ferdinand et puis je demandais s'il y avait des nouvelles, pas de nouvelles de la famille, de ses trois sœurs. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, comment tu vis ça? Il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de mots. C'est de l'angoisse, c'est tout. C'est juste ça. Lorsque l'être humain a péché, Dieu a maudit la terre entière. Et des cataclysmes comme ça, il va y en avoir encore et encore, jusqu'à ce que Christ revienne. C'est pour ça que nous attendons une autre terre. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des petits groupes cette semaine qui sont d'autres journées, tout ça. Certains vont servir à bouffe pour tous, mais vraiment, j'ai à cœur. Notre petit groupe, on va être ici mercredi soir. Je vous l'apprends pour mon petit groupe. On va être ici à 7 heures. Et s'il y en a qui ont à cœur de venir prier avec nous, de venir pleurer avec nous pour ces familles, il y a une sœur qui m'a partagé tout à l'heure, la famille est en vie, mais il y a une dame dans sa famille qui a suite aux accidents, qui a dû être amputée des deux jambes. Christ pleure actuellement pour tous ses enfants qui sont là-bas, qui souffrent. Christ pleure actuellement pour cette terre qui est rebelle à Dieu. Et il y a des cataclysmes qui sont venus avec la malédiction. Alors, soyons ensemble, s'il vous plaît, pour prier pour les frères et sœurs là-bas, pour les familles ici. Certaines de nos familles sont encore sans nouvelles de plusieurs parents là-bas. D'accord? Soyons dans la prière ensemble. On attend la délivrance. On attend la délivrance de cette terre qui est maudite, cette terre entière. Et on attend le retour de Christ. Un jour, nous n'aurons plus à vivre ces angoisses. Entre-temps, consolons-nous en Jésus-Christ. Consolons-nous les uns les autres. D'accord? On va prier tout de suite avant de lire les Écritures. Bon Père, comme ce doit être douloureux pour toi de voir ce monde rebelle. Ta création, Seigneur, l'être humain que tu as créé, rebelle et maudit. Père, je suis édifié, touché, bouleversé de voir tant d'Haïtiens ne pas s'en prendre à toi et à ton nom. Sachant simplement que les cataclysmes arrivent. Mais nous savons qu'ils arrivent parce que tu as maudit cette création à cause du péché de l'homme. C'est ça la vérité. Et Seigneur, le péché a entraîné une dévastation dans nos cœurs et dans nos âmes et tant de conséquences, tant d'angoisses, Seigneur. Maintenant, des familles qui sont sans nouvelles de proches. Un peuple qui vivait déjà tant de difficultés encore, Seigneur. Et nos frères et sœurs qui sont là-bas, au milieu de tout cela, frappé comme le reste des hommes. Et qui continue à dire, Jésus est Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Père, je te prie d'apporter la consolation. Apporte la paix et la consolation. Réconforte les cœurs, Seigneur. Apporte des nouvelles de miracles, de vies sauvées. Notre espoir, c'est toi, Christ. Notre véritable espoir, c'est de nouveaux cieux, une nouvelle terre, sans cette malédiction. Entre-temps, Père, que nous soyons trouvés fidèles pour annoncer Jésus-Christ, Seigneur. Viens ouvrir, Seigneur, notre esprit à ta parole ce matin. Que les cœurs troublés se taisent. Que celui qui est loin de toi s'approche de toi ce matin. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole. Je prie de me remplir de ton esprit. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. C'est un pécheur qui annonce ta parole. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, mon épouse, pendant que je reprends un petit peu mon air, mon épouse va nous lire Matthieu 21, 33 à 22, 14. Nous allons écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît.
Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ses misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »
Merci, chérie. Imagine un instant. Imaginez un instant que Dieu s'approche de vous, de toi personnellement. Dans une révélation extraordinaire, Dieu s'approche de toi personnellement, sans raison particulière, simplement parce qu'il t'a choisi, toi. Samuel, Alexandre, Esther, André, s'approche de toi individuellement, chacun d'entre nous. Alors, le Dieu des cieux, celui qui a créé toute chose, qui tient la terre dans sa main, s'approche de toi pour t'offrir personnellement de te bénir toi, spécialement toi. Il vient et te dit à l'oreille, « Je t'ai choisi pour avoir une relation toute particulière avec toi. Je désire être près de toi et te bénir abondamment. » Si tu acceptes, je vais me faire connaître à toi, je vais me révéler à toi et je vais te bénir. Je vais te prendre sous mon aile. Je vais m'engager à être ton protecteur, celui qui veille sur toi, qui te garde. Je vais prendre soin de toi. Est-ce que vous voyez l'image un petit peu, là? Il s'agit de Dieu, on ne parle pas de trois vœux et c'est terminé. Je ne suis pas en train de vous parler d'une lampe qu'on frotte avec un génie. Je suis en train de vous dire, Dieu s'approche de toi personnellement et dit, je veux entrer dans une relation spéciale avec toi, je désire te bénir. Imaginez ça un instant. Imaginez qu'il vienne vous voir et qu'il vous dise, je serai ton Dieu et toi tu seras mon enfant. Tu appliqueras ton cœur à me connaître, à m'aimer et je t'aimerai comme mon enfant chéri. Ce que je vais te demander, c'est de m'aimer, de marcher dans mes voies, qui sont toutes belles et magnifiques. Ce sont des voies agréables où marcher. On parle de bonté, d'amour, de sainteté, de justice, de générosité, de douceur, de charité. Alors Dieu te dit, je veux que tu vives mes valeurs et moi je vais te bénir parce que je veux que d'autres soient jaloux dans un sens. Je désire que d'autres désirent cette relation. Je veux que d'autres soient jaloux et veuillent entrer dans cette relation aussi. Qu'ils soient attirés à moi par notre relation que nous allons avoir ensemble. Qu'ils soient bénis comme toi tu es béni. Imaginez que vous auriez une manifestation spéciale de Dieu. Et Dieu vous fait cette proposition-là individuellement à vous. Vous seriez insensé de refuser une telle proposition. Encore une fois, je ne vous parle pas d'un génie dans une lampe. Je vous parle du Dieu créateur qui tient l'univers dans sa main et qui dit « Je veux te bénir personnellement. » Je serais insensé de refuser une telle proposition si Dieu venait me la faire à moi. Et Dieu ne t'a pas choisi dans mon histoire parce que tu es beau, tu es fin, tu es capable ou parce que tu es meilleur qu'un autre. Il t'a choisi parce qu'il t'a choisi. C'est tout. Parce qu'il a choisi de déposer les regards sur toi, c'est une grâce de Dieu. Une grâce exceptionnelle. Alors Dieu commence à te bénir, Dieu commence à te protéger, à bénir tes projets. Il se révèle à toi comme il ne l'a jamais fait auparavant. Il te fait connaître son cœur, ses valeurs. Il t'enseigne comment être heureux dans tes relations aussi. Comment élever tes enfants, aimer ton épouse, marcher dans la sainteté, dans l'amour, la paix. N'est-ce pas? Il veut te bénir parce qu'il t'aime et parce qu'il veut que d'autres aussi désirent cette bénédiction, cette relation spéciale, qu'ils soient attirés à Dieu par cette relation bénie que tu as avec lui. Maintenant, à ce moment-là, alors que Dieu t'a fait toutes ses promesses et qu'il commence à te bénir, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Quelque chose de pas mal tordu. Au lieu d'être profondément reconnaissant pour la bénédiction que Dieu t'a donnée, tu commences à en faire un point d'orgueil. Tu t'enorgueillis de cette grâce qui t'a été faite. Au lieu d'être humilié dans un sens touché de voir que Dieu t'a choisi toi par cet amour que Dieu te manifeste, tu commences à te voir comme un être supérieur aux autres. Un être choisi, un être béni, un être à part, une élite, particulièrement béni par Dieu. Tu commences à te voir comme celui qui a connu Dieu. Tu regardes les gens autour de toi, ceux qui ne connaissent pas Dieu comme toi, et tu te vois comme celui qui sait ce que personne d'autre ne connaît sur Dieu. Et dans un sens, c'est vrai. Dieu s'est approché de toi, il s'est fait connaître à toi comme à aucun autre homme. D'accord? Donc, dans un sens, c'est vrai. Tu es à part, mais tu commences à en faire un point d'orgueil. En fait, c'est une grâce. Dieu t'a choisi, c'est une pure grâce. Ce n'est pas parce que tu es supérieur. Et tu commences à regarder les autres de haut. Tu regardes les gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le péché, et tu les regardes de haut. Tu commences à cultiver dans ton cœur un certain mépris envers ceux qui sont dans le péché, qui ne connaissent pas Dieu. Tu vas même plus loin que ça. Tu en viens à tirer profit de ce privilège. Les gens parlent de toi comme le spécialiste de Dieu. Le reste de la terre n'a pas eu une révélation de la part de Dieu comme toi, tu en as reçu une. Alors, on commence à parler de toi comme le spécialiste de Dieu, celui qui connaît Dieu comme personne d'autre le connaît. T'en fais un point d'orgueil, tu commences à te servir de ça pour nourrir tes propres ambitions, pour tirer profit du fait que tu as reçu une révélation spéciale de la part de Dieu. Tu tires une gloire de cela. Alors que tout ceci devait t'amener à aimer Dieu, à connaître Dieu et ses valeurs, à porter du fruit, c'est-à-dire à aimer les gens autour de toi, à leur faire connaître Dieu, à marcher dans la sainteté, dans la charité, dans la bonté. Mais au lieu de cela, tu as nourri dans ton cœur une attitude hautaine, méprisante et égoïste. Celui qui connaît Dieu, celui qui a été béni par Dieu. Mais ça, c'est l'histoire d'Israël. C'est l'histoire du peuple d'Israël, au moins des chefs religieux très clairement dans le passage de ce matin, des dirigeants spirituels du peuple à l'époque. Dieu s'était révélé à ce peuple comme à aucun autre peuple sur la terre. Dieu les a aimés et Israël devait vivre et porter les valeurs de Dieu sur la terre afin que d'autres désirent entrer dans cette relation bénie. Israël devait être un modèle de bonheur, de paix avec Dieu, d'harmonie avec Dieu, un peuple qui devait vivre cela et vivre son amour pour Dieu et pour les hommes. Tout ce qu'ils connaissaient de Dieu devait les conduire à marcher humblement avec Dieu dans un amour et une générosité qu'on ne verrait pas dans les autres nations, une générosité pour leurs prochains. Cela devait les amener à se tourner vers les autres, à les servir, à les aimer comme Dieu les a aimés, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est pas ça qui s'est produit en Israël. Alors, pour compléter mon histoire, mon illustration, imagine encore qu'en voyant ton cœur, Dieu qui s'est révélé à toi, qui a voulu te bénir, mais en voyant ton cœur qui s'enorgueillit de cette bénédiction, ton cœur qui devient égoïste, voyant que tu détournes à ton profit tout ce que Dieu t'a donné de bon, Dieu t'envoie des messagers pour t'avertir. Il t'a choisi, il t'aime, il veut te ramener dans ses voies. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'aime, il t'envoie des messagers. Mais tu n'écoutes pas les messagers. Alors, en désespoir de cause, Dieu t'envoie son Fils, son propre Fils, sa chair, en se disant que tu écouteras son Fils au moins, que tu respecteras son Fils, que son Fils pourra te ramener dans le droit chemin et que tu te repentiras. Mais au contraire, tu le méprises plus que tous les autres messagers que Dieu t'a envoyés. Et non seulement tu le méprises, mais tu lui fais violence, tu le tortures et le tues. Si tu te comportais ainsi avec Dieu, comment est-ce que tu penses que Dieu réagirait? Qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais à la place de Dieu? C'est l'histoire d'Israël. Dans un sens, la venue de Jésus-Christ était l'ultime chance d'Israël. Dans un sens, je dis bien, parce que les desseins de Dieu étaient parfaits et ce qui s'accomplissait, c'est ce que Dieu avait dessiné. Mais en rejetant Jésus, Israël a scellé quelque chose. Rejeter Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, c'est rejeter ce que Dieu a de plus cher, celui en qui il a mis toute son affection. Cela revient à rejeter Dieu lui-même. Vous voulez une analogie? Rejeter mes enfants pour voir. Jade et Bastien, méprisez-les. Vous allez voir si j'en fais pas une histoire personnelle entre vous et moi. Dieu fait toujours une histoire personnelle lorsqu'on rejette son Fils. Toujours. Regardez la réaction des chefs religieux en écoutant l'histoire que Jésus leur raconte au verset 41. Je suis dans Matthieu 21, 41. Ce sont les chefs religieux, la foule qui répond spontanément à l'histoire de Jésus et lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ceux qui bâtissaient, les chefs religieux, les dirigeants du peuple, ils ont rejeté Jésus. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Cette pierre, Jésus-Christ, est devenue la principale d'une nouvelle construction, un nouveau peuple, une nouvelle maison de Dieu qui ne serait pas faite de briques et de pierres, mais d'hommes et de femmes qui croiraient en Jésus-Christ. Cette nouvelle construction, c'est l'Église de Jésus-Christ, fondée sur Jésus-Christ lui-même. Jésus a dit, « Je bâtirai mon église, mon assemblée, ma maison, et cet édifice spirituel est bâti sur Jésus-Christ, sur la foi en Jésus-Christ. » Il y a quelque chose de fondamental qui se passe ici. Et je pense, et cette semaine, je pense à tous les jeunes qui sont au cégep, même ceux qui sont au secondaire, qui sont à l'université, et vous pouvez vous questionner sur le fait qu'il y a tellement de religions dans le monde. À l'école, vous rencontrez de plus en plus toutes sortes de cultures et toutes sortes de religions différentes. Les cultures, pas de problème. C'est génial. J'aime la nourriture des autres cultures. J'aime la musique africaine. J'aime les autres cultures. Pas de problème avec les cultures. Mais vous pouvez vous poser des questions sur le fait qu'il y a tellement d'autres religions et vous êtes en droit de vous demander, mais pourquoi Jésus plus qu'un autre? C'est une bonne question. C'est une excellente question. Il faut répondre à cette question-là pour venir à Christ et être sauvé. Pourquoi pas Jésus et les autres? Pourquoi pas un Dieu d'amour qui aime toutes les religions? Tout simplement parce que Dieu a un Fils, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qu'il a envoyé pour nous annoncer sa parole, qui plus est pour donner sa vie en sacrifice pour nos péchés, en mourant sur la croix. À travers le récit qu'on a ici dans Matthieu 21, nous voyons le cœur de Dieu. C'est ça qui nous est illustré. J'ai intitulé cette prédication « Le Dieu scandalisé ». Vous voulez scandaliser Dieu? Vous voulez savoir ce qui va scandaliser Dieu hors de toute limite? Rejeter et mépriser son Fils unique. Et vous scandaliserez Dieu comme vous n'êtes même pas capable de l'imaginer. Parce que son Fils est celui en qui il a mis toute son affection. Et vous scandaliserez Dieu. Et vous repousserez Dieu. Vous savez, le fait que nous sommes pécheurs attriste Dieu. Dans un sens, le péché en général scandalise Dieu. Dieu est saint, Dieu est parfait, et le péché dans nos vies scandalise Dieu, c'est vrai. Ça attriste Dieu, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Mais d'un autre côté, Dieu nous connaît, Dieu sait que nous sommes pécheurs. Il sait que par nature, nous avons hérité de nos pères cette nature pécheresse, nous allons pécher. Dieu sait cela, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que par sa mort et sa résurrection, nous ayons un moyen de salut. Donc Dieu est scandalisé par le péché, c'est vrai, mais il sait que nous sommes pécheurs. Il a donné une porte de sortie. Alors, Dieu connaît que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi il vient à nous dans la personne de son Fils pour nous sauver de nos péchés. Mais mépriser son Fils, mépriser Jésus-Christ, rejeter le salut que vous offre le Fils de Dieu, et je vous assure que vous scandaliserez Dieu hors de toute limite. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre d'angle sur laquelle Dieu vient se donner un nouveau peuple. Il n'y aura de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu bâtit de nouveau, tout ce que Dieu offre comme salut aux hommes, repose sur cette pierre d'angle, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a salut en aucun autre. Voilà pourquoi l'évangile qu'on doit annoncer, c'est le salut en Jésus seul. Ce n'est pas par orgueil. C'est parce que Dieu fait toujours une histoire personnelle lorsqu'on rejette son Fils. Et si vous êtes parent, vous savez de quoi je parle. Vous pouvez comprendre le cœur de Dieu. Parce qu'Israël et les chefs en Israël ont rejeté le Fils de Dieu, le royaume de Dieu leur est enlevé. C'est terrible comme parole. Regardez le verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ce nouveau peuple, cette nouvelle nation sera composée de juifs et de non-juifs. C'est pour ça que lorsque Jésus dit ici, le royaume de Dieu vous sera enlevé, ce n'est pas vraiment une question de juifs, autant que comme entité nationale, Israël n'a pas reconnu son Messie. Et cette nouvelle nation, ce ne sont pas seulement les non-juifs. C'est tout simplement un nouveau peuple qui sera composé de juifs et de non-juifs. Beaucoup de juifs ont cru en Jésus-Christ à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, il y a des juifs qui, exposés à la parole de Dieu, reconnaissent que c'est en Jésus que les prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent et ils se convertissent. Ce nouveau peuple est composé de juifs et de non-juifs. Mais comme entité nationale, Israël n'a pas reconnu son Messie. Alors Dieu annonce qu'il se donnera un nouveau peuple, c'est l'Église. Maintenant, regardez l'autre parabole, la parabole qui suit. Je les prends les deux ensemble parce que les deux présentent essentiellement les mêmes vérités. L'histoire des noces représente les noces que Dieu organise pour son Fils, Jésus-Christ, et il invite ses amis à venir honorer cette noce. Honorer le Fils, c'est honorer le Père, c'est honorer le roi. Les amis ne veulent rien savoir, même ils méprisent le roi et son Fils. Alors qu'est-ce que le roi fait? Il envoie son armée et les fait périr. Il se tourne vers les gens du dehors. Les serviteurs sont envoyés pour chercher des gens de l'extérieur dans les rues, un peu partout, des bons et des méchants, tous ceux qui veulent bien venir à cette noce. C'est l'Église. Et honnêtement, lorsque je lis des bons et des méchants, ça ressemble à l'Église. Des parias puis des gens corrects. Il n'y a pas plus disparate que l'Église de Jésus-Christ. Il y a des gens qui arrivent ici avec un passé long comme le bras. D'autres, ben, c'était des gens avec une petite vie rangée. Mais les serviteurs du roi sont sortis dans les rues et ils sont allés chercher des bons et des méchants dans les rues. Tous ceux qui voulaient venir et qui voulaient entrer dans cette noce. C'est ce nouveau peuple. Et ce qui ressort aussi de la parabole, c'est la grâce, voyez-vous. C'est la grâce de des serviteurs du roi qui vont et qui vont dans les rues et qui font rentrer. Et ceux qui se retrouvent à cette noce ne méritaient pas d'y être. Dans un sens, Israël avait simplement oublié qu'il ne méritait pas d'y être non plus. Et si vous connaissez bien l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, vous savez que c'est une histoire de grâce. Mais Israël en était venu à mépriser cette grâce, en faire un point d'orgueil. C'est une histoire de grâce qui nous est racontée ici. Une grâce pour vous et moi, pour tous ceux qui veulent bien chérir le Fils de Dieu. Israël avait oublié la grâce qui lui avait été faite d'être choisi. Ils étaient esclaves en Égypte et Dieu les a choisis, les a libérés, il leur a donné un pays. Ils ont oublié cette grâce. Leur cœur s'est endurci et plutôt que d'honorer Dieu et de vivre ses principes d'amour et de générosité, de bonté, ils se sont enorgueillis. Leur cœur s'est endurci à la faveur de cette grâce qui leur avait été faite. Quelle leçon pour l'Église, mes amis. Aujourd'hui, Dieu appelle des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre à venir former ce peuple nouveau, fondé sur la foi qui est en Jésus-Christ. Dieu nous a fait cette grâce à vous et moi. Une grâce imméritée de pouvoir être ce peuple nouveau. Nous sommes invités à cette noce, à venir célébrer cette noce avec Dieu. Dieu nous a fait cette grâce de nous offrir cette relation privilégiée avec lui, à cause de ce que Christ a accompli en mourant sur la croix et en le ressuscitant d'entre les morts. Maintenant, il y a une mise en garde pour l'Église dans le passage ici. Il y a vraiment une mise en garde pour l'Église. Parce que Jésus parle de ceux qui ont été invités à la noce après coup. Et il y a toute une mise en garde. Je vous ramène juste au verset 43, 21-43. Voici ce que Jésus dit. « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. En créant l'Église, Jésus-Christ s'est donné un peuple qui rendra les fruits attendus par Dieu. » On oublie ça. Nous oublions ça. Nous oublions que la grâce qui a été faite à l'Église, c'est la suite d'un jugement de Dieu sur Israël. Israël ne donnait pas les fruits. Israël a été jugé. Et Jésus annonce qu'un nouveau peuple sera formé qui rendra les fruits. Dans la parabole qui suit, la parabole suivante, après avoir châtié les invités indignes et avoir invité les gens de la rue, le roi trouve parmi les invités un homme qui n'a pas pris soin de se vêtir d'un habit de noce pour la noce. Et là, on dirait que Jésus passe à un autre mode. Dans le châtiment qui est annoncé, t'es rendu dans des jugements incroyables. Celui-ci est chassé, jeté dehors. Et le verset 13, c'est clair qu'il parle de châtiment éternel. Quand Jésus parle du châtiment éternel, il parle toujours en ces termes-là. Alors, j'aimerais ça vous lire quelques versets dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 19, je vais vous lire à partir du verset 5 et vous pourrez prendre le temps d'aller le lire à tête reposée. Apocalypse 19, 5. Et une voix sortit du trône disant, « Louez Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. En lisant ces paroles-là, après avoir lu Matthieu 22, on a presque le sentiment que Jésus est plus en train de raconter une histoire, là. Ça commence à sonner drôlement littéral, presque prophétique. Ce que je veux souligner en terminant ce matin, c'est un peu la même leçon que la semaine dernière. Ceux qui étaient ici la semaine dernière, c'est un petit peu la même leçon. Frères et sœurs, Dieu nous a fait une grâce inestimable. Il s'est donné un peuple nouveau, un peuple qui ne méritait pas la grâce qui nous a été faite. Nous sommes ces gens de la rue, voyez-vous, qui avons été invités par grâce à venir aux noces. Et nous avons été invités parce qu'Israël a méprisé le Fils de Dieu. Israël a méprisé en quelque sorte la grâce qui lui avait été faite. Mais nous devons réaliser que Dieu s'est donné un nouveau peuple qui rendrait le fruit, qui vivrait une vie à l'image de Christ. Et Dieu nous a donné toutes les ressources par son Esprit Saint qui vient habiter en nous pour pouvoir vivre et porter du fruit, vivre cette vie nouvelle, vivre une vie à l'image de Christ, vivre une vie selon la parole de Dieu. Dieu s'est donné un peuple nouveau qui rendra le fruit. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que nous pouvons toujours nous repentir et revenir à Dieu. C'est une histoire de grâce qui nous est présentée ici. Mais il nous faut réaliser que ce peuple nouveau, que Dieu s'est racheté par grâce, il l'a fait pour que nous portions du fruit. Le but de Dieu avec l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, par notre style de vie, par notre manière de marcher, c'est d'illustrer au monde ce qu'Israël n'a pas fait. C'est simple, hein? Lorsque Jésus dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Est-ce qu'il est sérieux? Israël méprisait les Samaritains. Mais vous qui êtes ce peuple nouveau qui doit porter du fruit, est-ce qu'il est sérieux ou c'est un idéaliste rêveur? Qui est cette personne que actuellement tu as de la difficulté à aimer, à bénir? C'est qui ton ennemi? Dans ta famille, dans l'église, au travail, un voisin, un ami. C'est ton ennemi parce que dans ton cœur, il y a tellement d'amertume. Un peuple nouveau qui rendra du fruit. Vivez non sur la terre, ne vous investissez pas un royaume sur la terre, ne vous bâtissez pas des châteaux sur la terre, mais investissez-vous dans le royaume, dans l'éternité. Accumulez-vous des trésors au ciel, vivez d'une manière différente des gens du monde. Est-ce que c'est un idéaliste qui parle? Est-ce que c'est un rêveur? Ou est-ce qu'il est mort sur la croix pour de vrai, pour nous pardonner de nos péchés, pour de vrai, pour se créer un peuple nouveau qui marcherait pour vrai selon les principes de Dieu. Celui qui ferme ses yeux pour convoiter une femme a déjà commis l'adultère. Celui qui haït son prochain a déjà commis le meurtre. Est-ce que c'est un idéaliste qui parle? Ou est-ce qu'il est sérieux? Mais nous croyons qu'il est sérieux parce qu'il a signé cette alliance avec son propre sang. Amen. Frères et sœurs, nous sommes encore pécheurs. Et nous luttons encore. Et nous tombons encore. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a donné sa vie en sacrifice pour donner à son Père un peuple nouveau qui trouverait constamment la possibilité de se repentir, de retourner auprès de Dieu, d'invoquer le pardon au nom de Jésus-Christ, mais de se repentir. De sortir d'une vie de péché, de rejeter les idoles, de les sortir de notre cœur, de les fracasser et de dire, « Père, pardonne-moi, je ne les tolérerai pas encore cette semaine. Elles sortent aujourd'hui de ma maison, aujourd'hui de mon cœur. » Parce que cette Église va porter du fruit pour le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est un message d'espoir. Parce que Christ a donné sa vie pour nos péchés. Alors aujourd'hui, s'il y a encore des idoles dans ton cœur, des choses que tu tolères qui t'empêchent de porter du fruit, ne fais pas tant les paroles de Jésus en te disant « Ah, Jésus, tu sais, des fois, il poussait fort. » Il poussait fort jusqu'à la croix. Il a versé son sang pour qu'on le prenne au sérieux et pour qu'on soit pardonné. Repens-toi aujourd'hui. Reviens au Père et dis, « Père, je comprends que tu m'as invité à venir aux noces. J'ai été choisi, c'était une grâce imméritée. Et je ne veux pas mépriser cette grâce. Je chasse de ma vie aujourd'hui les idoles de mon cœur, de mon foyer, de ma maison. Et je consacre entièrement ma vie à vivre pour le royaume de Dieu et porter du fruit par ta grâce. » Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, lorsque je regarde à Israël, je ne regarde pas Israël de haut. Comme si moi, je savourais toujours ta grâce et je marchais dans la sainteté. Oh Seigneur, tu connais mon cas. Trop souvent, je méprise ta grâce. J'en fais un prétexte pour rester vautré dans le péché. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur, et qu'aujourd'hui, je savoure ta grâce, que je me repente de mes péchés et que je porte du fruit parce que tu m'as choisi, Seigneur. Sois béni. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.